Chapitre 5. Bain royal au lait de biche. Mordelia occupait la chambre de la reine depuis un an. Elle était la première souveraine à y habiter, puisqu'Alix, en arrivant à Versailles, avait préféré s'installer dans un dortoir avec ses amis. Jamais Mordelia n'aurait imaginé se retrouver à vivre dans un tel luxe. Après une enfance passée à survivre dans le vent glacial du quatrième étage du tipi, puis 2 années à errer en exil dans le désert et la forêt. Le grand appartement de la reine n'était que dorure, du sol au plafond, que velours, des tentures murales au tapis devant le lit, que boiseries, broderies, miroirs géants et lustres de verre cascadant. Sa couronne d'immortel était posée sur le lavabo de marbre, sa robe noire accrochée à une patère en argent. Mordelia se laissa glisser un peu plus profondément dans la baignoire de faïence, posée sur 4 pieds sculptés.
« Je peux te parler ?»
La voix de Génor la fit sursauter. Il était entré dans sa chambre sans frapper. Heureusement, son fauteuil roulant était trop large pour passer la porte de la salle de bain et Eugénor restait bloqué à l'extérieur, entre le lit à baldaquin et le portrait de Marie-Antoinette. Mordelia hésita à demander au grand serf de sortir, à lui préciser au moins qu'on n'entrait pas ainsi chez elle sans en demander la permission. Mais elle savait que c'était ce que Génor attendait, qu'elle lui fasse remarquer qu'il venait de franchir un interdit, et donc que tout lui était permis. Elle n'allait pas lui offrir ce plaisir.
« Bien entendu !»
répondit-elle du fond de son bain.
« Approche !»
Mordelia avait beaucoup observé Eugénor ces derniers mois. Il avait beau être un garçon surdoué, il n'en restait pas moins un ado comme les autres, plutôt intimidé par les filles, sans doute complexé par son handicap, et à ce point obsédé par sa sœur inconnue qu'il se méfiait de toutes celles qui l'approchaient, elle en premier. Eugénor bloqua les roues de son fauteuil devant la porte de la salle de bain. De sa position, il ne pouvait distinguer que la tête et les épaules de Mordelia, qui émergeaient d'un liquide blanc.
« Tu... » bafouilla Eugénor. « Tu te baignes dans du lait ?»«
Oui, »
minauda la reine. « C'est excellent pour la peau. Il faut qu'elle reste d'un blanc éclatant si je veux que tous ces idiots de Préma continuent de me prendre pour une sorcière. »«
Comme Cléopâtre, » murmura Eugénor, admiratif.
« Mieux que ta Cléopâtre. Elle prenait des bains de lait d'ânesse, paraît-il. Moi, je teste le lait de biche. D'après tes savants, il est 2 fois plus riche que celui de vache, de brebis ou de jument. J'ai 10 prémas fermiers qui s'occupent de la traite 1 fois par semaine. Du lait de biche. J'espère que tu apprécies l'attention, mon grand cerf. »
Eugénor ne releva pas. Mordelia adorait le provoquer. Elle devinait qu'il ne ratait rien de sa robe noire accrochée, de sa chemise de nuit jetée sur le lit, de ses épaules nues. Mordelia prenait d'autant plus de plaisir à jouer avec lui qu'elle ne risquait rien côté sentiment, puisqu'elle ne l'aimait pas. Mais ça, Eugénor l'ignorait.
« Je viens te donner des nouvelles de l'incendie du parc, » continua sérieusement Eugénor. « J'ai dressé le bilan avec Jean d'Arc, Vanille et Bill. Il n'y a eu aucun mort, seulement quelques brûlures superficielles. Rien de grave au final. »
« Rien de grave, » souligna Mordelia d'une voix ironique. « Akan a foutu en l'air plus de 300 litres de menthe magique et tu ne trouves pas ça grave. Tu sais le nombre d'heures de préma que ça nous a coûté pour ramasser cette herbe, la faire sécher, la distiller. »
L'ironie de la reine ne fit même pas sourire son conseiller. Il n'était apparemment pas d'humeur à plaisanter.
« Nous avons été imprudents. » Ce marché et ce feu d'artifice étaient censés impressionner le monde entier, étaler devant les primitifs et les prémas notre puissance.
Mordelia, visiblement moins préoccupée que le garçon, attrapa une petite carafe de cuivre posée sur le rebord de la baignoire et versa lentement du lait sur ses longs cheveux blancs.
« Et c'est ce que les gens retiendront, Eugénor. Ils oublieront les flammes et ne se rappelleront que les fusées dans le ciel. De quoi as-tu peur? Le drapeau du grand cerf flotte partout sur le monde connu. À chaque expédition, notre royaume s'étend davantage. Quelles que soient les tribus primitives que nous découvrirons, aucune ne pourra rivaliser avec nous. Nous possédons le monopole du commerce et de l'argent. Nous disposons des meilleures technologies. Nous pouvons lancer les nouvelles modes, les nouveaux goûts. Nous disposons d'une richesse infinie et d'une main-d'œuvre inépuisable à notre service. Plusieurs centaines des prémats qui me sont dévoués. Tant que Yak aura du champagne et du vin millésimé à boire dans son palace, il ne viendra pas nous déranger. Ogénor prit le temps de méditer la longue tirade de Mordelia. Jacques ne représente aucun danger, tu as raison. Mais à Cannes, ce soir, a encore gagné en popularité. La reine sursauta en entendant le nom d'Akan. Elle lâcha la cruche de cuivre qui creva la surface laiteuse du bain et coula. Arrête de croire qu'Akan est un rival. Personne ne le connaît mieux que moi. Il est loyal. Il ne cherche que la paix, comme le ferait un gosse de 6 ans. Crois-moi, il a beau être le plus fort de nous tous, il est incapable de nous vouloir le moindre mal. C'est un idéaliste. Il est aussi naïf et inoffensif que ces primitifs craintifs qui vendent des peluches sur le marché. Justement, Mordelia cherchait sa cruche à tâtons, ne la trouvait pas et s'agaçait. « Non !» poursuivit-elle. « Le véritable danger, c'est sa copine, sa bille. À l'inverse d'Akan, elle ne respecte rien, et encore moins l'autorité. Et elle a une influence détestable sur sa petite bande de comploteurs, Lunella, Agnel, Zizo, Alix. » Cette fois, en entendant le nom d'Alix, ce fut Ogénor qui sursauta. « Le règne d'Alix est terminé. Elle appartient au passé. Tout le monde l'a oublié. » Mordelia avait fini par repêcher sa cruche de cuivre. Elle se pencha pour la reposer sur le rebord de la baignoire, dévoilant la naissance de sa poitrine. « Tu as toujours sous-estimé Alix, au prétexte que c'est toi qui l'avais placée sur le trône. Pareil pour Zizomis. Mais tu ne pourras pas toujours te contenter de les exiler ou de les nommer ambassadeurs. Un jour, tu devras te débarrasser d'eux. Définitivement. » La reine se pencha encore hors du bain et traça 2 petites croix du bout des doigts dans la buée du marbre gris au-dessus d'elle. Ogénor rougit, autant troublé par la nudité de Mordelia que par les 2 symboles. « Les tuer ?» bafouilla le handicapé. « Je te rappelle que je ne tue pas. » « Et Solario ? » ?»« C'était un accident, tu le sais. » »«
Bien entendu, un accident. » Mordelia tapotait avec légèreté la surface blanche en frissonnant comme si le bain était désormais trop tiède.
« Tu as raison sur un point, » poursuivit la reine. « Sabi et sa clique ne représentent pas un réel danger pour l'instant. Ils ne disposent d'aucune preuve contre toi, ni contre ta chère maman Marie-Lune, et n'en savent pas davantage que nous sur le nuage. » Le sang jaune, ce labo Utopie et ses 3 lettres Néo. Même s'ils parlaient, personne ne les écouterait. Tant qu'on fournit à nos chers sujets de quoi se nourrir, se loger et s'amuser, ils se foutent du passé. Mais... Mordelia attira d'un coup sur une chaînette de fer qui libéra la bonde. Un siphon fit tourbillonner le lait et la baignoire commença doucement à se vider.
« Mais, poursuivit Mordelia, nous devons rester sur nos gardes et les surveiller. »«
Maintenant, laisse-moi. Et dors, nous avons un conseil tôt demain matin. »
Mordelia était toujours allongée dans la baignoire, la surface blanche descendait déjà sous ses épaules.
« À moins, ajouta la reine, que tu ne préfères rester là ?»
Elle entendit le crissement des roues du fauteuil sur le parquet verni. Ogénor fuyait. Elle se leva, ruisselante de lait. Si Ogénor regardait en direction de la salle de bain, il pouvait apercevoir son reflet dans le miroir embué. Mais l'avait-il fait ?
« De quoi as-tu peur, Ogénor ? » ne put-elle s'empêcher de lancer. « Je ne te plais pas, c'est ça ? Ou peut-être crois-tu toujours que je suis ta sœur ? Tu ignores qui elle est, n'est-ce pas ? »
Elle entendit la porte de son appartement s'ouvrir. Avant que le grand cerf quitte sa chambre, elle lui adressa un dernier avertissement.
« Mais la seule chose que tu as comprise, c'est que ta véritable ennemie, c'est elle, ta sœur jumelle. »